Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Sortons la tête de l'eau, le podcast qui vous emmène à la rencontre des experts métiers de l'eau et du paysage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Solène Maillot, chef de produit forêt urbaine à l'Office national des forêts. Bonjour Solène et merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre savoir-faire. Alors j'ai une première question pour vous, afin de planter le décor, comme on pourrait l'appeler. Qu'appelle-t-on forêt urbaine ?
Bonjour, merci à vous pour votre invitation. Aujourd'hui, il existe plein de définitions possibles de la forêt urbaine. Je vais vous faire part de la définition la plus officielle qui existe, qui a été élaborée et proposée par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Donc, pour la FAO, la forêt urbaine, ça correspond à un réseau ou un système qui inclut toutes les surfaces boisées, les groupes d'arbres et les arbres individuels qui se trouvent dans une zone urbaine ou périurbaine, y compris donc les forêts, les arbres des rues, les arbres des parcs, des jardins et les arbres des endroits abandonnés. Donc concrètement, pour nous à l'ONF, ce qu'on retrouve dans cette définition, c'est qu'il s'agit d'une expression qui parle à la fois des trames écologiques, qui traduit aussi une volonté générale et un questionnement d'actualité qui est la renaturalisation et la revégétalisation des tissus urbains dans un contexte de changement climatique et qui vise notamment et en particulier à répondre aux problématiques qui sont des problématiques d'îlots de chaleur, de gestion des eaux pluviales, de pollution de l'air et finalement, au bout du bout, on parle de la qualité de vie des habitants en milieu urbain. Après, pour l'ONF, finalement, dans l'utilisation qu'on en fait, on constate que l'expression forêt urbaine, c'est une expression qui est nouvelle, mais qui parle de choses qui se faisaient déjà, de pratiques et de questionnements qui ne sont pas nouveaux. Et donc, pour nous, ça correspond finalement plus à un contexte dans lequel vont s'inscrire des prestations et dans lesquelles nos experts vont être mobilisés pour proposer leur expertise, plutôt que vraiment un nouveau champ d'activité dans lequel on pourrait déployer notre activité.
Très bien. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment l'ONF aujourd'hui intervient sur la forêt urbaine ?
Alors, pour le coup, comme le champ d'expertise qui est nécessaire à la forêt urbaine et l'ensemble des enjeux vont être extrêmement vastes, on va les découper, on va dire, en quatre catégories, à savoir qu'il va y avoir premier enjeu qui va être un enjeu de connaissance. Consécutivement, on va s'attaquer à un enjeu de gestion, un enjeu d'anticipation des problématiques d'avenir pour faire face aux évolutions climatiques. Et au bout du bout, on va finalement poser la question de repenser le milieu urbain dans sa planification, dans son fonctionnement et plus globalement dans les usages qu'on peut faire de l'espace. Donc à partir de ces quatre enjeux, grosso modo, nous, on propose... Alors, dans un premier temps, d'effectuer des diagnostics et des inventaires pour justement répondre à cet enjeu de connaissance, d'identification des problématiques. Donc, une thématique liée à l'environnement, à la biodiversité, on va proposer des inventaires naturalistes, des études d'impact, etc. Sur la question de l'arbre en ville, plus spécifiquement, là, on va commencer par faire, encore une fois, des inventaires du patrimoine et réaliser des diagnostics. Alors, dans un premier temps, diagnostic visuel et sonore des sujets. Après, on va aller plus en détail dans la technicité si on se rend compte qu'il y a un problème, par exemple, sanitaire ou si on rencontre un certain nombre de doutes. Donc là, on va utiliser des pénétromètres ou des tomographes en sonore. Et enfin, si subsiste encore un certain nombre de doutes, on va, par exemple, réaliser des tests de traction qui vont nous permettre d'évaluer le comportement mécanique des sujets, soit parce qu'ils apparaissent problématiques, soit parce qu'ils vont être situés dans des zones qui potentiellement vont être soumises à des aléas, notamment climatiques, qui peuvent s'avérer importants et qui peuvent générer des enjeux de sécurité notamment.
Donc on ne peut pas décider de faire une forêt urbaine comme ça ?
Non, effectivement, la forêt urbaine, ça suppose un certain nombre de conditions. On ne va même pas parler du foncier, parce que la question du foncier, elle est très importante en milieu urbain. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on se positionne dans un temps où il s'agit de faire face aux enjeux climatiques, où il s'agit d'adopter une position de résilience, et pour laquelle la question de la surveillance, du suivi annuel, de la gestion du patrimoine, et donc de ce que l'on vise, à savoir la longévité des plantations, ça suppose, entre guillemets, qu'on change aussi de paradigme et qu'on s'intéresse vraiment à la meilleure façon de planter et au changement finalement du statut de l'arbre en ville qui va passer d'un statut un petit peu d'équipement urbain au statut finalement d'être vivant qui participe au bien-être des habitants, qui participe au milieu urbain et qui doit être considéré comme tel et pas seulement comme un équipement.
Et si on parle de réglementation, qu'est-ce qu'il faut savoir et quelles pourraient être les évolutions auxquelles les artisans doivent s'informer, suivre ce à quoi on pourrait s'attendre demain?
Alors, concernant la réglementation et tous les dispositifs de protection de l'arbre en ville, alors finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution ces dernières années. On a eu une évolution des EBC, des espaces boisés classés, qui originellement étaient appliqués à des surfaces boisées dans le cadre des révisions des documents d'aménagement et de planification urbaine. Aujourd'hui, ils peuvent s'appliquer à des arbres d'alignement, à des haies, voire à des arbres isolés. Donc, ça, c'est une évolution qui est intéressante, tout en ayant, par contre, toujours à l'esprit que quand on classe un sujet, un arbre d'alignement, une haie, etc., il ne faut pas la classer à un instant T, mais toujours avoir à l'esprit que c'est un être vivant qui va se développer et que donc la surface que l'on va classer, potentiellement, elle peut être amenée à évoluer aussi avec le temps de vie du végétal. Donc ça, c'est un premier point. D'autre part, on a eu, ce qui remplace les anciennes ZPP-AUP, aujourd'hui, ce sont les AVAP, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, qui permettent aujourd'hui de donner un certain statut de classement au patrimoine arboré et donc de bénéficier d'un certain statut de protection. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça maintenant, on a eu l'article 353 du Code de l'environnement. Qui a permis de positionner et de faire une proposition intéressante pour classer et protéger les arbres d'alignement. Mais aujourd'hui, on constate quand même que dans l'application locale, il peut y avoir parfois un certain nombre de controverses. Donc aujourd'hui, on a cet ensemble d'outils qui existent et on s'attend à les voir évoluer de manière potentiellement assez rapide, peut-être après à l'issue de ces élections et des législatives 2022, notamment parce que l'association Arbre, qui est extrêmement active dans la mise en valeur, la protection, la préservation du patrimoine, a milité de manière très proactive pour l'élaboration et l'affirmation d'une réglementation et d'une législation, pardon, qui reconnaîtrait le droit de la protection de l'arbre en tant qu'être vivant, qui a notamment proposé une déclaration des droits de l'arbre, qui est articulée autour de cinq articles fondateurs, et qui, par voie de conséquence, suggère de faire évoluer le regard sociétal, et donc, par voie de fait, les pratiques et les professions autour de la question de l'arbre en ville. Donc, concrètement, si ces textes sont amenés à être traités et à être intégrés dans la réglementation, ça peut vouloir dire que les élagueurs pourraient avoir des modifications dans les cahiers des charges, dans les pratiques, dans les formations qui pourraient être les leurs, mais pas que les élagueurs, parce que ce sont les premiers auxquels on pense, mais on peut aussi penser à tous les professionnels qui vont travailler sur le traitement de la voirie, sur le déploiement des réseaux, sur les architectes, par exemple, qui vont être amenés à proposer des opérations immobilières, etc. Donc aujourd'hui, la réglementation, elle est encore un petit peu lacunaire sur ces domaines-là, mais elle peut être amenée à évoluer relativement rapidement. Donc ce qui apparaît intéressant, c'est vraiment d'avoir une veille et d'être attentif à ces sujets-là à l'avenir.
Alors, comment on fait sa veille d'un point de vue réglementaire? Est-ce qu'il y a des sites?
Moi, il y a un site, un acteur qui est très proactif sur ce sujet-là et qui vulgarise beaucoup et qui propose régulièrement des formations. C'est le CAUE 77 qui dispose de plusieurs experts arboristes notamment et qui, depuis plusieurs années maintenant, a expérimenté sur les nouveaux types de plantations, le traitement de l'arbre urbain en ville, etc. et qui propose régulièrement un certain nombre de mise à jour. Après, il existe tous les réseaux un petit peu plus connus comme Valor, Planté-Cité et ce type d'acteurs qui fédèrent beaucoup les interprofessions et les professionnels du secteur.
Alors, j'ai envie de finir avec une dernière question sur les grands enjeux qui évoluent et avec les pratiques aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur qu'est-ce qui évolue, de quoi sera fait demain la forêt urbaine et avec surtout quelles nouvelles pratiques?
Alors pour le coup, l'enjeu finalement premier quelque part auquel doit répondre la forêt urbaine, ça correspond à l'évolution climatique. Donc les évolutions climatiques, elles sont déjà là. On constate d'année en année que les températures, on a des maximales de plus en plus élevées, des périodes de sécheresse de plus en plus importantes. Des températures minimales et des coups de froid avec des gelées qui sont toujours présentes, on l'a vu il y a quelques semaines encore. Donc ça, ce sont les premiers éléments auxquels on pense, mais il y a aussi un autre facteur qui peut être extrêmement important et avoir des incidences relativement catastrophiques, c'est l'apparition de nouveaux pathogènes et de nouveaux ravageurs. Sur les arbres, on compte la calarose du frêne, le chancre coloré, les scolytes, etc. Donc concrètement, l'ensemble de ces paramètres, ils induisent des phénomènes de dépérissement généralisé qu'on observe déjà, que ce soit sur des espèces forestières, mais aussi sur des espèces environnementales. Donc ça nécessite concrètement de repenser les palettes végétales qui sont proposées, toujours dans une optique de résilience et de plantation qui soit durable. Donc l'idée, c'est vraiment de se rapprocher des laboratoires de recherche ou de l'ONF qui ont une expertise et qui travaillent sur ce sujet-là pour identifier les essences qui seront les plus résilientes aux nouvelles conditions. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de miser aussi sur une diversification plus importante des palettes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de dire de quoi demain sera fait, quels sont les nouveaux pathogènes qui vont émerger. Et donc, l'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de taper, entre guillemets, le plus large possible pour être sûr que les plantations vont tenir. Donc ça, c'est un petit peu le premier point. Le deuxième point, finalement, et là aussi, c'est un point qui est très important, c'est de s'interroger sur l'évolution des pratiques, et de repenser la place de l'arbre dans les aménagements en participant à son développement et à ses besoins. Par exemple, aujourd'hui, il existe des techniques de plantation. Je vais vous parler de la plantation en fosse de Stockholm. C'est une technique de plantation qui n'est pas encore très connue, qui n'est pas forcément beaucoup implantée et pourtant qui est extrêmement intéressante puisqu'elle associe à la fois une réponse à la problématique de gestion des eaux pluviales et elle apporte également une réponse aux enjeux de plantation et de longévité des plantations. Donc concrètement, comment ça se passe ? Une plantation en fosse de Stockholm, il s'agit de mettre en place un système de fosses de plantation qui vont être coffrées et qui seront connectées à un système de récupération des eaux pluviales, alors soit récupération des eaux de toiture, soit récupération des eaux de la chaussée. Par infiltration, ces eaux vont alimenter en sous-sol une structure intermédiaire qui va être faite d'un mélange terre-pierre. Et ensuite, ce mélange terre-pierre va permettre de favoriser les échanges gazeux qui se produisent au niveau racinaire. Donc ça va permettre une meilleure production de la sève brute de l'arbre, d'une part, mais d'autre part, le mélange terre-pierre va aussi permettre aux sujets de développer leurs appareils racinaires de manière latérale, et donc de bien s'ancrer dans les sols, et d'avoir une assise mécanique qui soit intéressante, et une structure porteuse pour l'arbre qui va lui permettre de développer son port de manière optimale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette structure porteuse, elle va permettre l'installation de voiries en surface et ceci sans étouffer le système racinaire, pour lequel les contraintes mécaniques qui pourront être appliquées en surface peuvent avoir des conséquences relativement impactantes, voire assez dramatiques. Et on peut avoir des sujets qui dépérissent parce que le piétinement en surface de leur appareil va être trop important. Évidemment, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est d'associer une couche surfacique relativement poreuse pour qu'on ait toujours un accès à l'eau et à l'infiltration des eaux pluviales directement également au niveau du tronc de l'arbre. Ce n'est pas forcément obligatoire. Donc cette méthode, elle présente quand même beaucoup d'avantages puisqu'on est sur une méthode unique qui apporte une réponse à plusieurs problématiques, à la fois sur la gestion des eaux pluviales, mais aussi sur le développement du patrimoine arboré dans de bonnes conditions sanitaires.
Alors pourquoi est-elle peu utilisée ?
Eh bien, elle est peu utilisée parce que finalement, c'est une méthode qui a été développée, donc comme son nom l'indique, sous d'autres latitudes et qui n'a pas encore été beaucoup démocratisée. Elle est sans doute aussi peu utilisée parce qu'elle se situe un petit peu à la confluence entre des méthodes d'hydraulique urbaine et des savoir-faire de plantation et d'arboriculture qui ne se sont pas forcément toujours très bien rencontrées pour l'instant, mais on peut espérer que demain sera fait de plus de partenariats et de plus de plantations de ce type-là.
Donc c'est une belle opportunité à explorer.
Exactement.
Très bien. Merci Solène.
Merci à vous.
C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de Sortons la tête de l'eau. Merci à Solène Maillot d'avoir accepté de partager avec nous son savoir et ses précieux conseils. Merci pour cette générosité. Chers auditeurs, si vous avez des commentaires bienveillants et constructifs ou des idées de sujets pour de nouveaux podcasts, partagez-les sur l'adresse communauté@hydralliance.com. Et si vous souhaitez écouter nos autres épisodes, consultez notre page communauté.hydralliance.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sortons la tête de l'eau.